Actu SF, les podcasts.
Bonjour, bienvenue dans cette table ronde Novlangue et Néo-Parlé qui va se dérouler elle-même dans trois langues différentes avec l'aide de nos traducteurs et interprètes, puisqu'elle va se dérouler simultanément en français, en anglais et en langue des signes. Et c'est l'occasion de remercier tous les interprètes et traducteurs qui viennent nous aider à échanger et à communiquer avec tous ces différents langages. Donc, avec nous, pour cette discussion, nous avons trois intervenants très différents et très complémentaires. Nous allons sans doute parler ensemble du roman de George Orwell, 1984, et de ses traductions, mais nous allons sans doute parler aussi de bien d'autres choses. Donc, avec nous aujourd'hui, Jean Dagron, qui est médecin, qui est spécialisé en phoniatrie, en psychologie et sciences sociales, et qui est surtout le premier médecin à avoir organisé des consultations en langue des signes pour le public sourd, et qui va pouvoir témoigner ici de toute la manière dont le langage influe sur la relation au corps, le domaine de la santé et bien d'autres choses. Nous avons aussi avec nous Karine Tidbeck à côté de moi, autrice suédoise que nous découvrons en France grâce à son roman Amatka, qui a été publié aux éditions de La Volte et traduit par Luvan, et dans lequel les mots façonnent littéralement la réalité, la transforme, la fige et la stabilise, et nous aurons beaucoup de questions à lui poser. Et enfin avec nous, Sarah Dock qui est à la fois autrice, mais aussi traductrice. Elle écrit de la science-fiction, elle écrit de la fantasy, elle a traduit Paolo Bacigalupi, James Morrow et bien d'autres. Elle est aussi journaliste, elle est aussi militante et féministe, et très consciente du fait que le langage est un outil de la révolution, que la révolution est permanente et nécessaire, et que le langage est un des meilleurs outils, une des meilleures armes que l'on puisse utiliser pour faire cette révolution. Donc, pour entamer ce débat, je vais me permettre de poser une question à chacun d'entre eux, sachant que nous allons probablement tourner autour de la question des relations entre langage, pensée et réalité. Comment le langage façonne-t-il la pensée ? Comment influe-t-il sur la réalité et en particulier sur la réalité sociale ? Alors, pour faire connaissance, j'aimerais bien demander à Jean Dagron, en partant de sa pratique professionnelle, qu'est-ce qui se dit dans une consultation en langue des signes qui ne se dirait pas dans une conversation où l'on utilise un langage verbal ? Est-ce qu'un patient qui s'exprime en langue des signes est mieux entendu par son médecin qu'il n'est habituellement entendu dans une consultation où souvent on dit qu'on n'écoute pas beaucoup le patient ? Jean ?
Mais je réponds, vous demandez aux patients et pas à moi, hein, déjà, ça c'est sûr. Oui, les sourds préfèrent être soignés en langue des signes, ça je peux répondre, voilà, ça c'est clair. Est-ce que les consultations sont différentes ? Ah oui, elles sont complètement différentes. Pour un médecin, elles sont complètement différentes. Pour un médecin, elles sont complètement différentes. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut que le médecin, quand c'est pas un médecin sourd, il y en a de plus en plus de médecins sourds. Mais quand c'est un médecin entendant, il faut qu'il arrête de penser en anglais, en espagnol, en français, en arabe, mais qu'il pense en images. de la langue des signes. Donc c'est complètement différent, une espèce de schizophrénie. On se met à portion en image. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Que c'est beaucoup plus facile la communication et que c'est redoutable parce que le patient comprend instantanément. Si vous dites, parce qu'avant de pratiquer avec des sourds, j'étais pendant 15 ans médecin classique hein, dans un hôpital et tout, et j'apprenais des diagnostics graves à des patients, de maladies graves. Et si je disais avec le jargon médical, les gens comprenaient dans mon regard que j'annonçais quelque chose de mauvais, mais ils ne comprenaient pas vraiment tout de suite. Ils comprenaient à la sortie de la salle d'attente ou de la salle de consultation ou 2-3 jours après. Avec les sourds, avec les images, comme c'est une langue qui est très liée au corps et très proche de la réalité, quand on dit à quelqu'un que vous avez un cancer là, et bien là, je me suis aperçu que mes mains tremblaient. Mes mains tremblaient parce que je me suis aperçu que j'étais plus protégé par le jargon médical et que la compréhension était immédiate. Je veux dire que la différence avec la langue des signes, c'est qu'on comprend tout de suite. Voilà la différence du langage audio-vocal.
Moins de distance entre le langage et la réalité qu'il décrit.
C'est-à-dire que dans la langue des signes, il y a tout le temps la réalité. Voilà. Pour vous montrer, vous parlez de... Généralement, une langue, c'est toujours intéressant au niveau de la sexualité. Si vous dites, les congrès des sexologues, on parle sexualité, etc., on parle d'érection et tout, bon, on est loin de la chose. En langue des signes, érection, vous voyez, on est proche tout de suite de la réalité et on ne peut pas parler d'autre chose, des anges. Là, on est tout de suite en permanence. La réalité est dans la constitution du signe lui-même. Voilà. Et donc, c'est à la fois formidable pour un médecin parce qu'il peut expliquer beaucoup de choses beaucoup plus facilement et en même temps, c'est redoutable.
Et alors, pour qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec Karine, je vais lui poser aussi une question tout de suite par rapport au projet de son roman Amatka. Et donc, dans ce roman, il est nécessaire d'utiliser des mots, de les dire et de les écrire pour que les objets restent stables, pour qu'ils ne se transforment pas. Et j'aimerais demander à Karine si, dans son esprit, il s'agit du pouvoir des mots eux-mêmes ou est-ce qu'il s'agit d'un pouvoir de la pensée ? Est-ce que les mots sont une expression de la pensée ? Et si la pensée pouvait s'exprimer autrement qu'avec des mots, avec des signes par exemple, est-ce que ça marcherait aussi ?
That's a very good question. And I thought about this while writing the novel. And the way I reasoned about it was that it is... I'm not sure if I should say this because it might spoil the novel, but basically the expressing words and writing and yes, signing as well is vital to shape reality. So it's where the magic happens is where the brain transforms thoughts into actual words. So yes, in Amatka, I did not actually, to my shame, I did not think about this while writing the novel. I did think about speaking and I thought about writing as well. I did not think about signing, but I do believe that in Amatka it would be possible to sign another reality into existence.
C'est très intéressant de savoir dans l'esprit de l'auteur donc, si ce langage plus iconique fonctionne sur les mêmes principes qu'un langage plus distancié qui s'appuie sur un lexique. Et nous avons aussi ici une autre spécialiste du lexique et du passage d'une langue à une autre. Et j'aimerais me demander à Sarah, qu'est-ce qui se joue finalement dans une traduction ? Quand on passe d'une langue à une autre, est-ce qu'on transforme la réalité ? De quelle fluidité est-ce qu'on dispose ? De quel outil dispose-t-on ?
D'abord, pour moi, traduire, c'est en quelque sorte transposer une partition pour piano, pour une trompette, par exemple, pour un violon. C'est-à-dire garder la musique de la langue, garder la musique des phrases, le rythme, mais l'adapter à une autre réalité. Parce que ce que je dis aussi souvent, c'est que dans la traduction, parfois, ce n'est pas la connaissance de la langue qui est importante, c'est la connaissance de la culture. Et de savoir donc exactement de quoi parle l'auteur. Mais il y a une dimension, et c'est une dimension qui est extrêmement importante en traduction en français, c'est tout ce qui est néologisme, toute la création de langage qu'on trouve en science-fiction et qu'il faut arriver à faire passer d'une langue agglutinante comme l'anglais, où il est extrêmement facile de créer des nouveaux mots qui soient compréhensibles par tous, à une langue comme le français, où on a beaucoup moins accès à la structure intime de la langue et où donc trouver la manière de faire passer un nouveau concept, un nouveau mot, avec une langue qui n'aime pas créer des nouveaux mots, c'est difficile, c'est un défi, et c'est assez fascinant à faire.
Eh bien, merci Sarah d'être partie sur la question des néologismes, parce que j'espérais bien qu'on allait l'aborder à un moment ou à un autre. Elle est au cœur de notre table ronde, évidemment. Et alors, je vais demander par exemple à Karine si dans son univers, quelqu'un s'amuse à inventer des mots qui n'existent pas, à mélanger des concepts et à fabriquer des néologismes, qu'est-ce qui se passe? Comment elle réagit à la réalité?
How do I personally react to reality?
Non. Si dans l'univers d'Amatka, quelqu'un joue à fabriquer des néologismes et à désigner les objets avec des mots qui n'ont pas de référence, qu'on invente, qu'on fabrique en mélangeant des mots, qu'est-ce qui se passe?
Ah. Well, because of the nature of reality in Amatka, where people have arrived in this new world and they discover very early on that what they say, what they call an object, may transform the object. So it's extremely important to call everything by its right name. You can manufacture things by calling them a certain thing. You also have to remind the object what it is, which you have to mark everything. You have to actually write the word table on a table, otherwise it will lose its shape. The children are raised from a very early age to mark everything and to call everything by its proper name, because the risk is that if enough people start talking about an object as something else, it might transform. And social control is very, very strict, very, very firm. And a revolution in Amatka would consist of a growing number of people describing reality as something else. And this is how I also think about our reality. Reality is a story that we tell ourselves, that we tell each other. And depending on what words we use, reality becomes something different. Perhaps not materially, but how we experience the world. And considering the fact that what we think the world is what we experience through language, through vision, through hearing, and through touch. It's reality is more mutable than we think, I think. So, absolutely, calling something else in Amatka would be potentially disastrous, it is both tantalizing and terrifying in this context.
Tout ce qui est indéterminé est terrifiant dans l'univers d'Amatka. C'est-à-dire qu'on a une matière primitive, indifférenciée, qui terrifie tout le monde. Je vais demander justement à Jean, parce que la question se pose aussi par rapport à la langue des signes, est-ce que la langue des signes vise à... Est-ce qu'elle cherche à être précise, à éliminer l'ambiguïté, comme le font les langages de programmation informatique, par exemple? Ou est-ce qu'au contraire, la langue des signes est plutôt un outil fluide avec lequel on peut jouer sur l'ambiguïté, avec lequel on peut faire des jeux de mots, avec lequel on peut faire de l'humour? Parmi toute la diversité des langues, on est où dans la langue des signes.
Je crois que oui, c'est une langue qui peut être très très précise, qui est très précise, proche de la réalité, qui aussi fait créer l'imagination. La différence, je crois, c'est... Bon, je dis que la réalité est présente, la sensation est présente et le mouvement est présent. Et le mouvement est très important. Par exemple, je vais prendre un exemple. Si on prend le mot émancipation, c'est un mot émancipation. Émancipation, ça vient du latin mancipare. Mancipare, je vous le montre, c'est je suis un propriétaire d'esclave, j'achète quelqu'un. C'est pas quelque chose de grave, j'achète quelqu'un. Hein. Donc je suis mancipare. Bon, mancipare. Voilà. Émancipation, c'est l'inverse. D'accord. C'est quelqu'un qui se libère. Bon, ben, quand je dis émancipation, ça ne fait pas grand-chose. Quand on le dit en langue des signes, on voit la libération. C'est-à-dire que c'est une langue, par ses mouvements, qui montre les choses. Et donc, c'est beau, je veux dire, c'est dans la langue. Et donc, dans l'expression du geste et dans le mouvement, il y a une force terrible dans le mot émancipation. Vous avez aussi que dans les mouvements... vous avez vu les interprètes tout à l'heure, j'ai vu ce qui était avant, notre collègue avant, qui disait ça et ça. C'est-à-dire que son mouvement, la logique de pensée où il traduisait la personne suédoise, il y avait la logique de sa pensée était dans le mouvement. Vous voyez ce que je veux dire ? Sinon, c'est très très fort. Quoi. Voilà, ça c'est une caractéristique de la langue des signes. Dans le mouvement, ce n'est pas une gesticulation, c'est on voit la pensée en action, on la voit.
Voilà. On a une expression plus dynamique que dans l'expression verbale, qui serait donc peut-être plus statique et plus figée, au sens où Karine a joué sur l'idée justement d'un langage qui fige la pensée.
Moi, je ne veux pas comparer. Je pense que d'avoir le mouvement de la pensée, les images en action, de les voir dans l'air, dans l'espace, c'est ça la force de la langue des signes. Mais c'est pas pour dire qu'il y a une langue qui est meilleure que l'autre. C'est complètement différent. C'est-à-dire, si vous pensez un mot égale un signe, vous êtes à côté de la plaque. Voilà. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est deux langues qui peuvent signifier un sens la même chose, mais avec des façons de penser, un rapport au monde qui est complètement différent. Un rapport au corps, un rapport à la réalité, au mouvement. En langue des signes, il suffit d'un petit... c'est positif, ben, je n'ai pas besoin de dire c'est positif, je souris, ça y est, c'est fini. L'expression du corps et on permet de comprendre le sens. Voilà.
Je repartirais bien sur George Orwell, qui est quand même une des raisons pour lesquelles nous abordons la question de la langue. Pour Orwell, le langage est à la fois un outil de contrôle de la pensée et un outil de contrôle social. Je vais peut-être commencer par demander à Sarah de quelle manière Orwell te parle à toi. Qu'est-ce qu'il te dit, Orwell, et comment as-tu envie de compléter ce qu'il dit ?
Il dit la réalité sociale. Il dit la révolution du langage. Il dit, pour moi, je pense immédiatement à cette excision de la langue française au XVIIe siècle, où l'on a éliminé un nombre considérable de mots qui décrivaient des métiers féminins, les métiers intellectuels, les métiers de pouvoir, n'ont plus eu de féminin, on a exclu les femmes de cette partie. Et c'est maintenant notre devoir de femmes, mais aussi de français, de créer, de reprendre ces mots et d'en créer de nouveaux pour façonner une autre réalité. Une réalité qui ne va pas figer la langue, qui ne va pas enfermer les femmes, mais qui va au contraire ouvrir au neutre, ouvrir à la réunion des genres et des sexes d'une manière qui pourra libérer une parole plus libre, plus forte, et un lien, créer un véritable lien dans la langue.
Et on voit qu'il y a des résistances farouches qui se jouent partout. Moi, je suis très frappée depuis le début de ce festival. À chaque fois que nous nous présentons comme autrice, il y a toujours quelqu'un autour de nous pour dire « Mon Dieu, comme ce mot est laid !» Et quel est l'enjeu qui se joue ? À chaque fois que vous inventez un mot, vous, les féministes, mais à quoi ça sert ? Il n'y a pas d'enjeu, c'est futile. Et comme c'est laid, c'est violent, ces réactions.
C'est extrêmement violent parce que c'est... Mais bon... On retrouve le discours de ces fameux académiciens du XVIIe siècle qui expliquent très clairement le mâle étant supérieur à la femelle, il doit l'emporter. Et donc la résistance est par rapport à ce pluriel masculin qui a ses pronoms essentiellement masculins qui exclut à la fois les femmes, les personnes non-binaires, les personnes trans, les personnes qui ont une identité particulière, et donc des pronoms comme « yel » ou comme « c'est le » vont les choquer. Et vont les choquer, je crois, dans une partie de leur suprématie, de leur virilité.
Eh bien, Jean, est-ce que la langue des signes est genrée aussi fortement que l'est le français ? Est-ce que les noms de métiers, par exemple, les fonctions, s'expriment avec des marques du féminin ou du masculin ? Ou est-ce que la question n'a pas d'objet ?
Si, c'est comme partout, la question des objets. Moi, ce que je veux dire sur les interdictions de langue, enfin, je rebondis un peu.
Je vais y revenir après.
D'accord, parce que la langue, c'est le pouvoir, quoi. Hein, ça, c'est clair. Et moi, je voulais parler de... J'aime bien parler de sexualité, parce que pour juger une langue et son statut, la sexualité, c'est très importante. Et j'ai découvert assez récemment, vous savez que la langue des signes a été interdite, en 1880, au congrès de Milan. Quand on relit le congrès de Milan, le président du congrès de Milan, parce qu'on dit qu'il faut qu'un sourd il s'insère dans la société, il faut qu'il oralise, bon, ça c'est le discours. Quand on va au-delà de ce discours, qui est fou, hein, mais ça c'est pas le débat, c'est que le président de ce congrès de Milan, c'était l'abbé Tara. Et cet abbé Tara, il expliquait, d'une façon un peu confusément, que vous savez, c'est embêtant avec les sourds. Parce qu'au confessionnal, quand ils ont fait une faute sexuelle et tout, eh bien, avec la langue des signes, ils la refont. Voilà. Donc, l'interdit. Alors, c'est pour ça que dans les pays protestants ou aux États-Unis, la langue des signes n'a pas été interdite, et moins interdite dans les régions. C'est en Italie que ça s'est passé, en France, dans les pays de religion catholique, l'interdit sur le corps était fondamental. Une langue où le corps s'exprime, où il est proche de la réalité, eh bien, c'est interdit de parler de sexualité, mais autant interdire la langue. Je dévie un peu, mais pour dire que c'est aussi la langue, c'est le pouvoir. Quoi. Voilà.
Il y a une anecdote qui est très amusante, c'est le mot lapin. Le mot lapin, à l'origine, c'est conin. Et on le retrouve en allemand, en néerlandais, konijn, c'est un lapin. Mais konin, il y a con. Et con, on ne peut quand même pas l'utiliser dans la langue. Dans la langue écrite, c'est quand même un terme profondément sexuel. Et en plus, sexuel féminin. Donc, on a pris le nom du lapro. Pour former le mot lapin. Et ce qui est très amusant quelque part, c'est que avec le lapin, il y a la lapine. Et là, ça n'a pas posé de problème, parce que là, l'organe est masculin.
Oui, donc une langue sera facilement soupçonnée d'être indécente. Une langue, au moins dans une perspective religieuse ou sociale, devrait s'éloigner du corps et de la sexualité pour être respectable. Est-ce que la question se pose aussi quand la langue agit très directement sur la réalité, je n'ai pas vu cette discussion dans Amatka parce que la réalité qu'on projette n'est pas celle du corps ou de la sexualité. Qu'est-ce qui se passerait si la langue exprimait des désirs, des pulsions, de l'intimité ?
I'm not sure I understand the question, sorry.
Le, la langue d'Amatka est une langue dépouillée d'ambiguïté et a priori de sexualité aussi. Elle est très matérialiste et très abstraite. Est-ce qu'il est nécessaire que la langue soit abstraite pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse agir sur la réalité ?
I think in Amatka is a language experiment that won't really last because it doesn't have a lot of abstract levels. As for this is such a good question, and I haven't thought about it for a very long time. I think the social control in Amatka, because it's 6 years since I published the book the first time, so I haven't gotten this question for a long time. The way social control is affected in Amatka to keep people from actually staging a revolution is to keep language and therefore thinking on a very material basic level, so that you can't really speak about abstract concepts because you don't have the language for it. You can speak about everyday things. You can speak about this is my job, I'm going to go to my job, this is what I'm going to do tomorrow. But it's very difficult to speak about dreams and hopes and fears because so many of those concepts are concepts that begin with what if. And in Amatka, in my novel, it's very difficult and very dangerous to ask what if, because that would require people to speak about things that have not happened yet or to speak about things that do not exist. So the way that people do it there is through poetry in very subtle ways. And I think I can sort of see this happening in our world as well, through preventing people to dream about possibilities by dumbing down the language. When you rob someone of their language, you also rob them of their possibilities. Which is why I also believe that education is incredibly important, because the more access you have to a language, be it any language, the more you're able to actually express what you would like to happen. And magic, as we all know, is impressing your will upon the world. So in order to be able to perform magic, you need to be able to speak about it. You need to be able to visualize what you would like the world to be.
Je vois très très bien ce qu'elle veut dire, c'est très amusant. Pour revenir au fait qu'on a un peu accès à la structure de la langue française et à des choses comme ça, je me souviens quand j'étais ado, j'en avais marre de toutes ces insultes qui en fait tournent essentiellement autour du sexe féminin, autour de la féminité, autour de la soi-disant faiblesse, autour de la féminité et de l'homosexualité essentiellement. Et je m'étais amusée, en famille, on s'était amusé à transformer les cons, les connards, etc. Et à trouver tous les mots, toutes les expressions qui pouvaient exprimer le sexe masculin. Et comment faire en sorte qu'au lieu de vous traiter de cons, on peut vous traiter d'orchidée du pauvre, par exemple, qui est une très jolie expression. De pin, de bit, de toutes sortes de choses, et d'inverser ce paradigme, d'inverser cette obligation sociale de continuer à limiter les femmes à leur vagin et à leur utérus.
Alors, on a deux axes qui se dessinent clairement, le rapport de la langue à la sexualité et au corps, et aussi la capacité de la langue à transformer le réel en décrivant des choses qui n'existent pas. Parce que pour transformer le monde, il faut pouvoir parler d'autre chose, justement, que de ce qui est le réel incontestable. Pour transformer, il faut, comme disait Karine, pouvoir parler de ses rêves, de ses aspirations et de ses futurs aussi. Ça me rappelle une discussion que j'ai eu hier ici même avec le traducteur de Liu Cixin, donc qui connaît bien la langue chinoise, et qui me disait en Chine, la littérature de science-fiction est considérée comme subversive parce qu'elle décrit un futur, c'est-à-dire autre chose que la réalité, le simple fait d'envisager que le monde puisse fonctionner autrement que comme il fonctionne en ce moment en Chine, c'est subversif. Les auteurs chinois ont trouvé des parades, bien évidemment, et écrivent de l'Uchronie. Et là, là, il n'y a pas de problème, puisque ce qu'ils décrivent se situe dans un passé qui n'a pas existé et donc qui n'est pas dangereux. Et je me demandais justement, puisque autour de cette question du façonnage de la réalité et de la liberté que peut offrir le langage de parler d'autre chose que du concret, du réel et du présent, je voulais demander à Jean, est-ce qu'on peut parler au futur en langue des signes ? Est-ce qu'on peut parler au conditionnel ? Est-ce que c'est une forme de ponctuation ou est-ce que ça transforme les signes eux-mêmes ?
Oui, enfin, là, il faut mieux demander aux sourds qui sont dans la salle. Hein. Ils sont plus, c'est leur langue, ce n'est pas la mienne. Mais bien sûr qu'on peut parler du futur. Mais bon, c'est différent parce que c'est pas porté sur des mots, sur des signes. C'est spatial. Hein, voilà. Alors, si vous avez... donc, c'était le passé. Le futur, c'est sur l'axe des temps. Voilà. Ou la semaine, ou lundi, ou samedi. Ça, c'est en France, dans les pays occidentaux. C'est vrai qu'en Chine... C'est la langue des signes, c'est Confucius un peu. Hein. Donc c'est du sol, le passé, au ciel, le futur. Voilà. Mais c'est toujours spatial. C'est là la différence. Moi j'avais envie d'un petit peu de rigoler un peu. Donc c'est tout à l'heure tu parlais des gens qui se révoltent, qui retournent le stigmate, qui le retournent. Ben, les sourds ils font exactement la même chose. Exactement. Par exemple souvent les sourds ils disent, ben, lui c'est un entendant profond. Et puis l'autre, c'est un entendant moyen. Puis moi, je suis un entendant léger, parce que je signe, alors je suis un entendant léger. Mais je suis quand même un entendant, mais léger. Mais un entendant profond, c'est vraiment celui qui ne sait même pas lever le petit doigt pour s'exprimer. Quoi. Voilà. Et bon, bah, c'est retourner les choses. Hein, comme bah, je me souviens d'une fois, c'est histoire de rigoler un peu, quoi, mais un journaliste ou frétillant qui arrive et qui interviewe un sourd, puis il n'y avait pas l'intermédiaire de l'interprète, il dit « Vous êtes malentendant ». Il dit oui bonjour oui je et vous êtes mal sourd lui répond le sourd voilà et la journaliste n'avait pas su quoi répondre c'était fini quoi. Mais ça c'est une façon de se mettre à égalité avec l'autre et ça c'est très important c'est retourner les choses et souvent les sourds emploient ça mais pas que toutes les minorités hein, emploient ça c'est-à-dire se mettre à égalité avec l'autre en renversant quoi voilà et après on peut discuter une fois qu'on est à égalité on peut discuter
mais ce que beaucoup d'entendants ne comprennent pas, ne conçoivent pas, c'est qu'il y a une communauté sourde, il y a une culture sourde qui est propre aux sourds et qui est avec des revendications, avec une véritable... C'est une culture, c'est une communauté et ce n'est pas juste des individus... qui complètement épars, qui n'essaye pas de construire quelque chose.
Moi, je me demandais justement si des réticences ou des méfiances qu'on perçoit partout, on est dans une société où on voudrait que tout le monde soit pareil, donc que tout le monde soit de préférence mâle, blanc, catholique, en Europe en tout cas, et en alignant un certain nombre de stéréotypes comme ça. Je me demande s'il n'y a pas des similarités entre les combats que doivent mener les communautés de sourds, par exemple, et les combats que doivent mener les femmes qui sont très solidaires sur ces questions. Et est-ce que de la même manière... on ne nous fait pas un procès en conspirationnisme. Moi, je me suis souvent demandé, en regardant des gens signer, ce qui est très beau et qui est fascinant à regarder, c'est magnifique, c'est comme une danse. Mais je connais aussi des gens qui, ben, comme quand on est en face de quelqu'un qui parle une autre langue, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Est-ce qu'il est en train de dire du mal de moi ? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer ? Et nous, quand nous sommes, menons des combats collectifs, nous inspirons cette inquiétude-là aussi.
Tout à fait. Mais je vais, c'est comme le regard qu'on a sur la science-fiction. C'est que pour beaucoup de gens, la science-fiction, comme c'est aussi du rêve, de l'espoir, c'est aussi se projeter dans l'avenir, mais c'est pas de la littérature. C'est pas... Nous sommes de doux rêveurs, nous sommes des adolescents attardés qui construisent des mondes pour y rêver. Et donc, ça rejoint aussi cette... oui, mais c'est quoi ces hystériques qui veulent absolument changer la langue, changer le rapport, les rapports de force, lutter contre le pouvoir absolu du masculin dans la langue et des choses comme ça. C'est, qu'est-ce que c'est que ces personnes qui veulent absolument sortir de la réalité.
Karine, on a parlé que de Amatka, que vous avez écrit il y a 6 ans, mais vous avez écrit beaucoup de nouvelles, vous en écrivez en ce moment. Est-ce que la question du langage est une question importante pour vous qui revient? Et quelles sont les thématiques qui vous préoccupent? Est-ce que ce dont on a parlé jusqu'à maintenant fait écho à des textes qu'on n'a pas encore pu lire en français, mais qu'on lira peut-être bientôt, j'espère?
Oh, I'm very concerned with language. I think that, I mean, I've listened to, and the translator is very good. Thank you very much. And I think I've gotten the gist of what you're saying, which is, well, the conversation about talking about the norm and how we talk about the norm and how we program the norm into the language is very interesting. Such as the fact that, you know, the man, as we mentioned earlier before the panel, that men are people and women are women. And those are apparently the two binaries. There's nothing else. That's all we can talk about. And this is going on in Sweden as well. We're trying to find new ways to talk about reality, to talk about all the people, all the individuals that are out there, and to actually try to, instead of prescribe reality, which traditional language tries to do, to describe reality and all the people that exist there, all the possibilities, not just describe the norms that we try to impose upon reality, but instead describe what is actually there, which is what I am trying to do in my fiction and what I'm trying to do in my language as well. I'm working on a novel right now where I am also trying to make language describe what is actually there in reality. I was also thinking about, because you've been talking about how French is a gendered language, very much so, and we don't have quite the same problem in Swedish, but we are trying to establish a new gender-neutral pronoun, which has gotten a lot of backlash, saying specifically that we don't need this gender-neutral pronoun. In fact, it has the same sound as the word for chicken in English, so it shouldn't be valid, et cetera, et cetera. There's a huge backlash, but I do think that when every revolution comes, when every positive revolution comes, there will be the old dinosaurs to try to fight back before the meteorite hits them.
Et c'est aussi la réaction est étrange parce que c'est comme si on ne comprenait pas que ce travail sur la langue, ce travail féministe de changement de la langue, de métamorphose, est en fait une manière d'inclure tout le monde, de donner une humanité aux femmes, mais aussi à toutes les autres personnes, à tous les autres genres, à toutes les autres minorités, de leur donner une existence et des mots pour exprimer leur propre réalité, leur propre personnalité, leurs rêves et leurs envies. C'est vraiment quelque chose qui est là pour inclure, pour réunir, et pas pour exclure, contrairement à ce que pensent beaucoup de dinosaures.
Il faut trouver des manières de le faire. Elles sont souvent compliquées, elles sont souvent contestées. Il y a l'écriture inclusive avec cette forme qui consiste à utiliser un point pour avoir à la fois le suffixe masculin et le suffixe féminin, qui fait pousser des hurlements aux dinosaures. Il y a la règle de l'accord de proximité à l'écrit, qui semblerait si naturel et si simple et qui fait aussi pousser des hurlements aux dinosaures. Il y en a aussi quelques autres. Donc, voilà, quel serait le bon formalisme ? Parce que la question du pronom dont parlait Karine, c'est la première, évidemment. Comment nous désigner d'une manière qui ne nous réduise pas à quelque chose de trop déterminé et de simpliste ? C'est vraiment très compliqué comme question.
C'est la différence entre l'écriture inclusive et l'écriture qu'on appelle épicène. L'écriture épicène est un moyen, est une tentative de neutraliser, d'ajouter du neutre, et donc d'éliminer le plus possible les accords de genre, de pouvoir, au lieu d'utiliser des adjectifs qu'on va devoir accorder à un genre ou à un autre, utiliser un verbe, utiliser un mot épicène, comme une sentinelle, par exemple. Une sentinelle peut être aussi bien masculine que féminine. C'est vraiment trouver des façons de neutraliser totalement la langue, alors que l'écriture inclusive, elle, a un côté plus militant.
Énumératif.
Oui, et plus énumératif, et qui est en train de créer de nouveaux pronoms, de nouvelles façons de parler, de nouvelles façons de désigner et les mots et les personnes. Et en fait, quand les gens voient le point médian, oh, mais quelle horreur, mais quelle horreur, et ils ne se rendent pas, ils ne savent pas comment le lire. Alors qu'en fait, c'est simplement, par exemple, on va prendre auteur, is, c'est auteur et autrice, quand on le lit. C'est juste une façon de ne pas alourdir le texte en systématiquement nommant les deux genres dont on parle. Et c'est ça qu'ils oublient souvent. Et surtout, le point médian n'est qu'anecdotique par rapport à tout le reste de ce qui forme l'écriture inclusive.
Jean, elle évolue comment, la langue des signes ? Est-ce qu'elle est traversée comme ça par des courants militants, des revendications ? Ou est-ce que c'est simplement un outil aussi direct, aussi intime, aussi immédiat que possible entre des individus ? Est-ce qu'il y a des luttes sociales qui s'y expriment ?
À l'évidence, c'est une langue humaine. Moi, ce que je voulais intervenir, c'est que en termes d'autocritique, parce que comme il y a une vingtaine d'années, je parlais d'ingérence linguistique positive pour intervenir sur la langue des signes qui avait été une langue exclue, qui était la langue de résistance des sourds, la cour de récréation ou dans les foyers des sourds. Et d'un seul coup, on la met à l'hôpital et il fallait dire la médecine en langue des signes. Et donc là, je pense que la langue, c'est le pouvoir et que les médecins ont du pouvoir et trop de pouvoir. Et moi, c'était moi en l'occurrence. Donc on a inventé des signes avec l'influence directe des médecins. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, je prends un exemple comme ça. C'est une maladie génétique qui s'appelle Usher. U-S-H-E-R. C'est une maladie de sourds de naissance qui, après, progressivement, ont des problèmes de vue. Et donc, le signe qui vient de moi, alors je peux l'autocritiquer complètement, qui est un signe catastrophique, parce qu'on fait ça. Et avec l'économie de la langue, on fait de plus en plus ça. Et donc, c'est faux, quoi. Médicalement, c'est faux. Ça vient à l'adolescence. On dit à un gamin de 17-18 ans, quasiment, il va devenir aveugle. Quelle prétention médicale de le savoir. Donc, c'est faux médicalement, et c'est une catastrophe, humainement, et qui vient directement de l'intervention des médecins dans ce qu'ils n'ont pas à faire. Et je pense que là, j'ai complètement rétro-pédalé. Et je pense qu'effectivement, la langue des signes s'enrichit et restons modestes. Et c'est vraiment aux sourds, à leur façon de penser, de s'approprier les concepts, de les dire. Et après, je les expérimente en consultation, je dis oui, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Mais en tous les cas, c'est eux qui la créent, c'est leur langue. Et ils le font à leur façon de faire et de penser. Donc l'important, c'est d'avoir des professionnels sourds. L'important, c'est que le niveau d'appropriation des concepts médicaux par les sourds augmente. Voilà. Et que c'est leur langue, c'est à eux de le faire. Donc la langue, c'est toujours le pouvoir, quoi. Donc on veut, soi-disant, aider les sourds, aider la langue des signes, mais c'est sûrement pas aux médecins de le faire. Enfin, je le dis par expérience personnelle, après avoir fait beaucoup de bêtises. Et donc, je pense que le génie de la langue des signes, c'est l'iconicité. Moi, je travaille plus en France. Hein. Là, je pars en Amérique latine. Je travaille en Amérique latine avec des sourds qui ont des langues des signes complètement différentes. Et on se comprend parfaitement, mais en employant l'iconicité, c'est-à-dire les images de la langue des signes, et pas les signes argentins, ou les signes uruguayens, chiliens ou français. Et on se comprend parfaitement. Hein. Mais c'est les sourds qui m'ont appris l'iconicité. Voilà. Alors, je peux vous faire une démonstration tout à l'heure, c'est d'iconicité si vous voulez, mais ou un sourd peut le faire. Voilà, mais vous allez, si je vous fais la respiration en iconicité, tout le monde va comprendre. Voilà.
Et mais on veut voir. Hop.
Non, mais de tout, ce que je voulais dire, c'est que ce sont les concernés qui créent les mots, qui créent le langage, qui peut les décrire et qui peut décrire le.
Et qui sont légitimes à le faire.
Et qui sont légitimes à le faire, exactement.
Voilà, on est d'accord.
On a le temps progresse et je suis persuadée que dans la salle, il y a sans doute des questions. Je vois tout de suite déjà plusieurs, au moins une main qui se lève. Donc je crois qu'il est temps qu'on vous entende un peu, justement.
Oui, bonjour, merci pour la table ronde. Je pourrais rebondir énormément sur tout ce que vous avez dit, donc je vais me limiter à une remarque et deux questions. Il y a une remarque qui me tient à cœur sur le travail qu'on fait sur la langue pour effacer certaines réalités qui existent. Et notamment, on est en train de nettoyer dans le monde du travail la langue pour ne plus penser la relation d'autorité. Alors, ça a déjà été identifié par deux sociologues, Boltanski et Schiapello, qui ont montré que dans les bouquins de management des années 60, le mot qui était le plus cité, c'était hiérarchie. Il a disparu complètement dans les années 90 pour être remplacé par un mot que tout le monde connaît, c'est le mot projet. Et je pourrais multiplier les exemples. Un collègue n'existe plus, c'est collaborateur. On ne parle plus du supérieur hiérarchique, mais N+1, ce qui donne un côté en plus scientifique, donc c'est génial. On ne dit plus obéissant, docile, mais flexible ou adaptable. Et je pense que c'est une interprétation personnelle. C'est on ne peut pas se rebeller contre quelque chose qu'on ne pense pas. Donc si les gens n'ont plus les mots pour penser l'autorité, on ne peut plus la contester. Donc ça, c'était ma remarque qui me tient à cœur. Et j'avais deux questions. Dans mon secteur professionnel, sur les livrets de forme, enfin sur les demandes de formation, on voit des mots qui, des expressions qui disparaissent et qui apparaissent. Par exemple, on ne parle plus d'exclusion sociale, mais d'inclusion sociale. On ne parle plus de décrochage scolaire, mais d'accrochage scolaire. Et même si on écoute dans les médias, on ne parle plus de licenciement, de restructuration, mais de plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc, on a l'impression qu'en fait, tout ce qui est négatif doit être retourné pour devenir positif. Donc ça, c'est le constat, mais je n'arrive pas à comprendre et comment l'interpréter. S'il vous plaît, aidez-moi. Et la deuxième question, et elle sera beaucoup plus courte, est-ce que vous avez un avis sur la multiplication des sigles dans toutes les langues? Je sais que c'est le cas dans le monde du sanitaire, c'est dans le monde du travail social. On peut faire des phrases complètes avec 6 sigles différentes, et moi, ça m'inquiète. Merci.
C'est le jargon. C'est le jargon, c'est le pouvoir. Là, on est en plein dans George Orwell. On est en plein dans, oui, le jeu de pouvoir, la manière de, comment dire, d'enfermer les gens dans une relation de pouvoir, dans une relation où ils ne comprennent pas les mots qu'on leur impose, où il y a vraiment une réaction de hiérarchie sociale, où un langage est utilisé en quelque sorte pour enfermer l'autre dans l'incompréhension et dans l'inconnaissance.
Pour empêcher la révolution, si on ne peut plus dire la révolution, on ne peut plus la faire concrètement. Ou alors on se retrouve dans la rue à beugler et à lancer des cailloux, mais personne ne comprend vraiment pourquoi. Donc s'il n'y a plus de mots négatifs pour parler du monde du travail, comment se rebeller contre ce qui s'y passe ?
Oui, moi je peux citer Orwell ce qu'il dit, hein, parce que ce qu'il dit c'est clair. Alors c'est dans 1946... Il dit il y a beaucoup de clichés, on utilise des métaphores, des comparaisons, des locutions rebattues. On s'épargne un effort mental considérable. En contrepartie, le sens reste flou. Et donc, lui, ce qu'il préconise, je crois que c'est pour ça que j'étais invité à table ronde, mais il préconise de rester sur le sens des mots, précisément, le sens précis, et employer beaucoup d'images et de sensations. C'est pour ça que la langue des signes, c'est parfait. Parce que je pense que le complément d'Orwell, c'est la langue des signes, c'est justement les images et les sensations. Et on reste dans le sens précis. Quoi. C'est un contre. Enfin, voilà. Donc, relisez Orwell, il explique tout ce que vous venez de dire tout à fait bien. 1946, hein. C'est de l'avant-garde.
Karine, vous avez envie de réagir aussi, non?
I think everyone said it really, really well. So.
Est-ce qu'on a une autre question? Oui, plein. Un petit souci de micro, apparemment.
Alors, on a beaucoup parlé de l'influence de la langue et sur le genre. Il y a d'autres problématiques du même type dont on n'a pas beaucoup parlé. Je pense notamment à l'influence de l'âge sur la langue et comment on l'associe à l'expérience. On peut aussi parler des gauchers, droitiers. Quel sens à gauche, quel sens à droite dans la langue. Même en anglais, c'est exactement la même chose. La question, c'est est-ce que les langues courantes n'ont pas trop de bagages pour pouvoir vraiment évoluer dans la direction qu'on souhaite?
Non, parce que rien n'est immuable et rien ne doit être immuable. Mais oui, par exemple, par rapport aux vieux, on ne parle plus de vieux, on parle d'anciens. On va appeler une vieille femme une mamie, la réduire à sa fonction reproductrice une fois de plus, ou un papy. On va essayer de... On croit que c'est quelque chose de tendre et de gentil. Et en fait, pour beaucoup de personnes âgées, c'est vexant. Et oui, droite, c'est bien, gauche, c'est mal. Ce sont des choses sur lesquelles on doit tous travailler. Mais je crois que c'est tout le monde doit investir la langue et la faire évoluer et la faire changer pour construire quelque chose de nouveau. Parce qu'en faisant évoluer la langue, on fait évoluer la société, on fait évoluer la manière dont on voit, dont on conçoit les choses.
On a un tout petit peu de temps, à moins que... Non. On a encore un tout petit peu de temps pour une ou deux questions, pas beaucoup plus.
Oui, je voulais. Moi, je donne des cours à des non-francophones, des cours d'alphabétisation. On s'aperçoit que le français est quand même une langue extrêmement difficile, enfin, il me semble en tout cas. Et actuellement, on entend dire qu'il va y avoir des simplifications, que le passé simple n'était plus appris à l'école, etc. Alors, moi, évidemment, par rapport à mes élèves, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, puisque ça simplifie. Mais évidemment, ça va un petit peu en contradiction avec tout ce que vous avez dit et ce qui est aussi au cœur de l'œuvre d'Orwell, qui est que plus on a de langage et plus on peut décrire le monde et plus on peut penser et évoluer. Mais en même temps, un peu de simplification ne serait pas désagréable de temps en temps. Voilà, je voulais votre sentiment.
Soit, mais le problème, c'est que si on n'apprend plus le passé simple, comment est-ce qu'on peut lire des textes écrit au passé simple? Comment est-ce qu'on peut avoir accès à certains pans de la culture si on n'a pas les outils pour l'appréhender?
I think it's very, very. I mean, so there is an act of simplification going on in French. I think no matter what kind of changes comes from the above, the people are still going to evolve the language. So I think whatever kind of reform is going to take place is going to be temporary because new forms are going to show up. People are going to think of new ways to use language. So I think what you'll find is that over the years, you'll have to make new reforms and new because language will just keep evolving, evolving. It's plastic, just like humans.
Et il faut arrêter avec la sacralisation de la langue qui vient de l'Académie française, mais qui est aussi très, très, très française. La langue française est sacrée, il ne faut pas... J'ai entendu comme ça quelque chose de très, très drôle quand on a parlé de l'accord du participe passé, parce que c'était des Belges qui l'avaient proposé. J'ai eu des réactions, mais qu'est-ce que c'est que ces Belges qui veulent investir la langue française et la changer? Ce à quoi j'ai répondu Becherel et Grévis, qui sont les plus grands grammairiens de la langue française et qui sont belges. Mais non, la langue n'est pas sacrée. La langue doit évoluer. La langue doit évoluer avec le monde dans lequel elle vit.
I think language needs to be fucked with.
Yes.
Yes.
Bon, je crois qu'on n'aura même pas le temps de prendre une dernière question. À moins qu'elle ne soit très très courte, si quelqu'un est horriblement frustré. Sinon, non, on me dit qu'il faut qu'on arrête. Donc, je vous propose. Je ne comprends pas bien ce qu'on me dit, mais ce que je vous propose, c'est d'aller continuer ces discussions. Vous retrouverez en dédicace Sarah Doc et Karine Tisdek, et même moi d'ailleurs, si ça vous dit, tout à l'heure en librairie. Donc merci à tous et merci à nos traducteurs, interprètes, intervenants.